si on résume un petit peu, hein, tout ce qu'il a fait pour être heureux. J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche, ça veut dire qu'il a mendié, il a fait des chansons des enfants, il a fait la gueule, il a fait le con, il a fait la fête, la cour, il a fait son cirque, le clown, du bien, des fautes, des folies, fou rire. Et qu'est-ce que ça a donné? J'ai fait semblant, j'ai fait au mieux, on fait comme on peut, puis j'ai rien fait. Je croyais être heureux, j'attendais d'être heureux, ça va aller mieux demain, ça va pas mieux, c'était mieux avant. Alors, il y a c'est un message qui, hein, on fait tout pour être heureux, on essaie d'être heureux, toute notre énergie est placée là-dedans, corps et âme, on se dévoue, tout ce qu'on a, tout ce qu'on fait, c'est pour être heureux, hein? Alors, le résultat, c'est pas toujours à la hauteur de tout ce qu'on fait, de nos attentes. Il donne un exemple dans la chanson, peut-être qu'il faut le réécouter une couple de fois, aller voir les paroles. Il parle de Noël. Noël, c'est une fête normalement où on est heureux, hein? Mais de plus en plus, il y a des Noëls qui sont tragiques, des Noëls qui sont vraiment des drames, hein? Il dit que la vie est cruelle, et puis il y a des gens qui sont absents à Noël. Il y a des gens qui ont divorcé, il y a des gens qui, les familles sont divisées, les familles ont de la misère. Alors, ça a changé un peu. Et il parle aussi que le bonheur, c'est comme une bougie. Et il dit, il ne faut pas rire trop fort. Il ne faut pas rire trop fort parce qu'on va, éteindre. On va éteindre la bougie, on va éteindre le bonheur. C'est fragile, c'est quelque chose de très, très fragile. Si on est heureux, là, goûtons-y, parce que demain, c'est pas... Et la finale, là, on le veut, oui, on le veut, tout le monde veut l'atteindre, c'est quand le bonheur, c'est souvent après qu'on sait qu'il était là, mais il est là, le bonheur, il est là, il répète qu'il est là. Alors, oui, tout le monde le veut, mais c'est comme de la magie, on s'attend à ce que le bonheur apparaisse comme de la magie. C'est comme une illusion. Est-ce que il y a des joies légitimes dans ce monde? Oui? Donne-moi un exemple. La naissance d'un enfant. Hein? Un mariage. Oui, normalement. C'est... Hein? Oui. Hein? C'était ma fête hier. Et puis, j'ai eu des... Je ne suis pas Facebook trop, mais j'ai eu des bonnes fêtes de personnes là, que j'ai connues il y a 20, 30, 40 ans. Ils m'ont retrouvé. Ça fait « wow ». C'est des bons souvenirs qu'on a eus ensemble. On était dans la même église, j'étais pasteur. Puis, wow! C'est des... D'autres choses? Qu'est-ce qui vous fait votre bonheur, le bonheur légitime? Là? Simplicité, tranquillité. C'est tranquille, ouais. La bonne bouffe, c'est vrai? Hein? Jésus aimait beaucoup ça aussi. Il était toujours en train de manger avec ses disciples. Ouais, un petit... Et plus ça va, plus que... Être enfant adulte, tu dis? Avoir des enfants adultes qui sont heureux. Ouais, ça c'est... J'en ai braillé hier. Mon garçon, il m'a fait un cadeau de fête à son chalet. Il a passé la tondeuse pour sa sœur. Ouais, il m'a fait pleurer. Oui?
Alors, pour nous qui sommes chrétiens, j'en suis sûr que
le vrai bonheur est en Jésus. OK, mais c'est pas ça que je veux savoir. Trop spirituel.
La réalité.
On commence dans le bonheur, des bonheurs légitimes. Hein? La santé, rapidement, oui.
Dormir,
ouais. Une bonne nuit de sommeil, être avec nos familles ensemble. De ne pas être en chicane avec personne. Qui a dit ça? Football. Pas hockey, hein? On va attendre un petit peu pour le hockey. Ouais. Ah, ouais. Oui. J'ai pas compris. Quand on aime son mari. Et l'inverse aussi. Hein? Quand le mari aime sa femme. Du bon temps en famille.
Bonne arrêt de moto.
Oui. Alors, ça, c'est toutes des lois, des joies qui sont légitimes dans le monde, qui. Mais il y a des lois que je dirais illégitimes aussi. Quels sont les exemples de ces joies illégitimes, des plaisirs défendus, qu'on pense qu'ils nous apportent le bonheur, qu'on pense qu'on a du fun, hein? Dans la sexualité, on peut avoir beaucoup de fun à commettre l'adultère, hein? Dans la pornographie, dans toute cette sexualité qui est en dehors de ce que Dieu veut, on peut avoir beaucoup de fun là-dedans, hein? Et dans les abus de substances, celui qui se saoule, y a-tu du fun? Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Jamais, jamais de ma vie. Des fois, je prends un ou deux verres, là, puis I feel good. Mes enfants, ils rient de moi, là, mais ils ont du fun. Hein? Pourquoi on se fait ça? Parce que on a c'est le fun, on a du plaisir. Ou bien, on fume, hein? Et du cannabis bientôt. Et aussi dans la nourriture, on peut se vautrer. Il y a plein de plaisirs là, mais c'est l'abus. Hein? Et le trip de pouvoir aussi. Lorsqu'on a du pouvoir, hein, il y a des gens dans le monde qui ont du pouvoir, puis ils trippent là-dessus d'abaisser les autres, d'exploiter les autres, d'appauvrir les autres. Ils ont vraiment du fun là-dedans. Hein? Mais le problème avec ces joies illégitimes-là, c'est que ça ne marche pas. Ça marche, là. Hein? Le moment où je goûte à mon chocolat, là, après ça, c'est fini. Ça en prend une double dose. Puis c'est jamais assez. Puis on se fait mal. Puis on fait du mal aux gens qui sont autour. Et puis on se détruit. Puis on détruit toute notre vie. Alors, on s'enfonce dans le malheur. Pourquoi? Pour quelques moments de plaisir, quelques moments de bonheur, quelques moments d'extase. Alors, il est où le bonheur? L'indice, j'ai un mois hein, et plus pour préparer le message. J'ai le temps de chercher des affaires. Hein? Alors, le classement mondial du bonheur et ce qu'ils présument ou ce qu'ils ont mis comme critère de bonheur, vous l'avez là, l'indice du bonheur. Le pays où il y a la paix, la sécurité, il y a l'aide sociale, l'espérance de vie en bonne santé, la liberté, la démocratie, les droits de la personne humaine, la qualité de la vie, la corruption. Alors, ils ont calculé ces pays-là où ces critères-là, ces indices-là, pourraient apporter le bonheur. Sur 157 pays, le Canada est en 7e position. On est dépassé un petit peu par la Suède, il y en a quelques autres. Ouais, les pays scandinaves. Hey, on est dans le pays le plus heureux au monde, entre guillemets. Hein? Les frères, mes sœurs, on est dans le top du bonheur selon les statistiques, je peux dire. Alors, si on s'est levé ce matin en bonne santé, plus que malade, on est plus choyé, encore plus privilégié que tous ceux qui sont dans les hôpitaux, tous ceux qui sont malades. Hein? Il y en a 1 million de personnes qui vont mourir cette semaine dans le monde. Si on n'a jamais expérimenté la guerre, la révolution, hein, ici au Québec, là, on n'a aucune idée de ce que c'est. Hein? Hein? L'emprisonnement, la torture, la faim, l'isolement, l'injustice. On ne connaît pas ça. On ne connaît pas ça. Il y a des millions de chrétiens hein, qui sont si on assiste à l'Église le dimanche, sans crainte d'être persécuté, il y a des statistiques là-dessus aussi. Hein? Ça, c'est les pays dans le monde où il y a le plus de persécution. Alors, le numéro 1, Corée du Nord. Numéro 2, l'Afghanistan. Je ne sais pas si j'ai le la Somalie, le 3. Le Soudan, le 4. Le 5, il est où? Il est où, le 5? Le Pakistan, l'Érythrée, Libye, Irak, 9, le Yémen et l'Iran. Alors ça, c'est les endroits dans le monde où les chrétiens sont les plus persécutés au monde. Il y a juste le témoignage d'une dame pakistanaise au Pakistan, Asia Bibi qu'elle s'appelle, mère de 5 enfants. Il y a des lois contre le blasphème dans son pays. Et malheureusement, elle a été accusée de ça. Savez-vous ce qu'elle a fait? Elle travaillait dans des champs. Elle a été accusée d'avoir souillé l'eau parce qu'elle a plongé son gobelet dans le seau commun. En tant que chrétienne, elle est considérée comme impure. Parce qu'elle a bu de l'eau dans la même citerne, la même vase que les autres qui travaillaient avec elle. C'est sa réaction qui lui a voulu l'accusation de blasphème. Elle a dit que Mahomet aurait probablement désapprouvé cette accusation. Blasphème. Elle a refusé ensuite de renier sa foi en Jésus. Elle a été battue par les villageois, immédiatement arrêtée. Elle est enfermée depuis 9 ans maintenant et risque la pendaison. 9 ans pour avoir... Ouais. Elle attend le jugement de la Cour suprême. La communauté internationale se mobilise. Il y a le Conseil des droits de Genève. Et elle a écrit ces mots. Elle a dit, « Mais les mots me manquent pour exprimer ma gratitude. Je sais que vous êtes avec moi dans cette situation critique. Je sais que vous priez, que vous me soutenez, que vous faites tout pour votre possible pour me sortir de cette affaire dans laquelle je suis faussement mise en cause. Dieu Tout-Puissant est là pour répondre à vos prières et à tous les efforts que vous faites pour moi et ma famille. » Ça, c'est un exemple. Les millions de chrétiens qui sont actuellement, en ce moment même, punis pour des niaiseries, juste pour être chrétiens. Un autre domaine, vous avez de la nourriture dans le frigo? Vous avez des vêtements dans le garde-robe? Vous avez un toit pour dormir? Vous êtes plus riche que 75 % de la population mondiale. Plus que 258 millions de migrants. Vous avez 82 % de la richesse mondiale qui est détenue, qui va au 1 % des plus riches de la population du monde. C'est grave, hein? C'est grave. Il y en a qui blâment Dieu. Hein? Si on mettait cette richesse-là pour aider les personnes. Hein? 8 hommes détiennent autant de richesses que les 3,6 milliards de personnes qui représentent la moitié la plus pauvre de l'humanité. Tu as de l'argent en banque? Tu en as dans ton portefeuille ce matin? Tu n'as pas de dette? Tu as de quoi te payer tes factures, tu es dans le top 8 % dans le monde. C'est quoi ces faces, ces visages-là? On est dans le top 8 % le 7e pays le plus heureux, selon les statistiques. Vous savez lire et écrire, vous êtes plus choyé que 2 milliards de personnes sur la Terre, peut-être le quart de la planète ne savent pas lire et écrire. C'est relatif, hein? Le bonheur, c'est relatif. Et il y a des gens qui ont tout et qui sont plus malheureux que des gens qui n'ont rien. Ça, c'est une autre statistique peut-être qu'on n'a pas faite. Hein? On est allé au Niger, et puis un des pays les plus pauvres, hein, le Niger. Est-ce que les gens étaient moins heureux qu'ici? Pas du tout. Pas du tout. Hein? Non, ils n'ont rien. Hein? Ils sont dans la misère. Les grandes vedettes, on pense que les grandes vedettes, les stars vont... Hein, ils peuvent tout se payer, là. Tout au monde, ils peuvent tout se payer. Et il y en a qui se suicident. Hein? Elton John a tenté de se suicider. Es-tu un gars plus connu, plus riche, plus... La princesse Diana est enceinte. Elle s'est jetée en bas des escaliers parce qu'elle n'était plus capable de supporter la vie. Alors, il est où le bonheur? Il y avait un homme qui va voir son rabbin et il se plaint. Il dit, la vie, c'est insupportable. On n'est plus capable de vivre. On est neuf dans une pièce. On a notre appartement, il y a une chambre. On vit neuf là-dedans. C'est plus vivable. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, le rabbin dit, tu as une chèvre dehors, prends la chèvre, amène-la vivre avec vous dans votre chambre. Il était un peu incrédule, un peu surpris, mais le rabbin l'a dit. Hein? Et le rabbin insiste, fais ce que je te dis, viens me revoir dans un mois. Alors, le mois suivant, il revient encore plus déprimé. Ça ne marche pas, votre conseil, là, on ne peut plus endurer ça. La chèvre, elle pue, elle est sale, elle est malpropre. Et là, le rabbin, il dit, OK, retourne chez toi, puis mets la chèvre dehors, puis tu viendras me revoir. Il revient le revoir, puis il dit, oh! Que la vie est belle! Hein? Je suis un homme transformé, tout heureux. On est juste neuf dans la chambre. Ouais. Alors, est-ce que le bonheur, c'est relatif? Ouais. Puis, à quoi je ressemble dans ma semaine, là? Examinons-nous. À quoi est-ce qu'on ressemble? Hein? Il y a des... Alors, ça, c'était la chèvre. Mais, oh, j'en ai... Il manque un... Il manque quelque chose. Peut-être qu'on va le retrouver plus tard. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? On a vu ce que le monde dit et ce qu'on vit. Et qu'est-ce que Dieu dit? Paul, dans Thessaloniciens, il dit, il marque... Dans le grec, là, tu me corrigeras, Maritza, mais quand tu mets l'adverbe en premier, c'est parce que tu mets l'accent sur le mot, hein? En tout cas, anciennement, c'était ça. Toujours réjouissez-vous. C'est pas réjouissez-vous toujours, c'est toujours réjouissez-vous. Il met l'accent sur le toujours. Et c'est un impératif, hein? Réjouissez-vous toujours, toujours soyez heureux, soyez joyeux. Car c'est, il en rajoute, il en met plus, il dit, car c'est, ouais, car c'est la volonté de Dieu à votre égard. Hey, c'est quelque chose, là. Pas d'excuses, il n'y a pas d'exception à la règle, il n'y a pas de si, il n'y a pas de mais, il n'y a pas de sauf que. Ne pas toujours se réjouir, c'est désobéir. Ne pas toujours se réjouir, c'est désobéir à l'impératif. L'attendez avant de m'attirer de nez. C'est impossible. C'est impossible, n'est-ce pas? Hein? C'est infaisable. C'est pas quelque chose de naturel. C'est pas ça qu'on a. On n'a pas hérité de cette façon-là, puis on n'a pas ça. Non. C'est surnaturel, c'est surhumain ce que Paul nous demande de faire là. Qui est-ce ici qui est toujours joyeux? On peut être envahi par plein d'autres émotions. Regardez pour voir si c'est ça. Ouais, c'est ça. On peut être envahi par plein d'autres émotions, puis je pense que c'est normal. Dans le monde où on est, c'est pas toujours drôle, c'est pas toujours le fun. Ça dépend de notre humeur, hein? Comment on file, on se lève le matin. Notre bonheur dépend beaucoup de ce qu'on ressent, de nos émotions, de ce qu'on sent. Ça dépend beaucoup aussi des circonstances. Hein? Il y a un malheur qui arrive, on a une sœur qui est malade, on a quelqu'un qui a le cancer ou une bad luck qui nous arrive, notre bonheur, il dépend beaucoup des circonstances. Hein? Je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez ce matin, qu'est-ce que vous avez appris comme nouvelle hier, puis vous arrivez ici, puis il y a plein d'émotions qui peuvent être négatives. Et une troisième chose, donc, c'est mon humeur. Il y a les circonstances de la vie, puis il y a aussi les relations, nos relations. C'est là que la source du bonheur, c'est la relation avec mon mari, ma femme, mes enfants, avec mes amis, le travail. Tout ça, ça joue, ça a un impact très, très fort sur notre bonheur. Alors, et on est tous sensibles à ça, puis je pense que Dieu nous a créés comme ça, on réagit comme ça. Alors, Paul, c'est quoi que tu dis là, là? Ça n'a pas de sens, hein? Alors, avant de dire « je ne suis pas capable, c'est pas faisable », j'ai trouvé une source d'encouragement. Hein? Le thème, c'est « on a comme modèle Jésus ». Est-ce que Jésus était toujours joyeux? Qu'est-ce que vous en pensez? Non? Oui, mais là, il ne suit pas sa parole. Hein? Hein? Regardez ça, là. Jésus, en voyant Jérusalem, il pleure. Hein? Il n'est pas toujours joyeux. Il frémit, donc, il tremble dans son esprit qui est troublé. Il pleure sur Marie qui vient de perdre Lazare. Il est en proie à l'angoisse dans le jardin de Gethsémané, hein? Il saisit de tristesse et d'angoisse. Son âme est triste jusqu'à la mort. Jésus. Et il y a la colère. Donc, il y a la tristesse, il y a la peur, l'angoisse, la colère. Et il y a déception, il est navré de la réponse des gens qui sont autour de lui. Donc, si Jésus n'était pas toujours joyeux, on pousse un grand cri de soulagement, c'est correct. Hein? C'est correct. Et l'apôtre Paul qui l'écrit, hein? L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit? J'endure les douleurs de l'enfantement. Mesdames, vous savez c'est quoi? Il ne savait pas de quoi il parlait, là, mais il présumait que... il paraît que ça fait mal. Hein? Et il est inquiet. Ensuite, il y a une grande tristesse, un chagrin continuel dans le cœur parce que son peuple qui vient pas au Seigneur... dans Philippiens, il dit, j'en parle maintenant en pleurant, parce qu'il y a des ennemis de la croix. Et il était dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, parce qu'il devait prêcher devant les Corinthiens. Alors, Paul, tu ne suis pas ton propre commandement, ton propre impératif. Alors, j'ai trouvé une explication. Une. On en va en avoir une cette semaine, puis on va avoir la suite au mois de novembre. Mais une première réflexion qu'on peut faire. Quand on parle d'un impératif, on parle de quoi? Ça implique quoi un impératif? Si je vous dis « levez-vous », ça implique que vous êtes assis, n'est-ce pas? C'est bon? Levez-vous. Soyez toujours... Ça implique qu'on est assis, qu'on est couché ou qu'on n'est pas dans cette position-là. Alors, quand il dit « soyez toujours joyeux », ça implique qu'on peut ne pas être toujours dans cette position-là. Puis, puisqu'il le dit, ben faisons-le. Hein? Ça demande ma participation, être toujours joyeux. Ça demande ma participation, ça demande mon implication, ça demande un engagement, ça demande un effort de ma part, ça demande une réflexion de ma part pour faire que ça se produise, ça arrive. Si je dis, mes frères, mes sœurs, soyez joyeux maintenant. J'ai un sourire, Claire qui sourit, Maritza un peu. Alors, si je ne suis pas, si ce n'est pas automatique, hein, puis on ne veut pas du fake non plus, mais Paul dit, Dieu dit, que c'est toujours possible d'expérimenter cette joie-là. Hein? Si ça bloque en quelque part, va débloquer le tuyau. Appelle Jean-Claude, débloque le tuyau. Hein? Applique le bon remède, la bonne situation. Il y avait une émission de télé sur le bonheur, parce que ça fait longtemps que je... Puis là, ils ont parlé du bonheur. Puis rapidement, ils disaient qu'il y avait deux possibilités, deux clans qui s'affrontaient. Il y en avait qui disaient que le bonheur, c'est quelque chose d'inné. C'est quelque chose qu'on a en soi. Tu l'as ou tu ne l'as pas, le bonheur. Hein? C'est dans tes gènes. Puis, il y a des gens qui sont nés avec le bonheur facile. Hein? Ils ont ça en eux. Et l'autre groupe, ils disaient non. Le bonheur, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qui demande des efforts, qui demande de la persévérance, de la sagesse. Et le score final, c'était 22%, c'était inné, 78%, c'était acquis. Mais je pense que les deux sont là. C'est à la fois dans nos gènes. Et une bonne nouvelle, c'est que nous sommes nés de nouveau. Nous sommes régénérés. Je crois que c'est la même chose pour un chrétien. Le chrétien, c'est inné d'être heureux. Vous me suivez? Je pourrais même dire que heureux, c'est synonyme de chrétien. Nous sommes des heureux élus. Nous sommes saints. Nous sommes les fils et les filles bien-aimés de Dieu. C'est une réalité, c'est une chose qui est accomplie. Et c'est on ne peut pas changer notre nature. Et notre nature innée, c'est d'être heureux. On est condamné, mes frères et sœurs, à être heureux à perpétuité. On est condamné à être heureux à perpétuité. C'est notre destinée, on est destiné au bonheur éternel, parfait, garanti, assuré à 100%. Il n'y a pas de « wow ». Amen, ça commence. Alors, c'est commencé. Il est là, le bonheur, il est là. Il est là, on l'a en dedans de soi. C'est en nous, on a été recréé en Jésus-Christ avec cette nature-là, cette nouvelle nature-là. On a le bonheur inné. Maintenant, est-ce que ça s'acquiert? Bien sûr. On est saint. La parole de Dieu nous dit qu'on est saint. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit vivre comme si ce que nous sommes. Appliquer ce que nous sommes à la vie de tous les jours. La sainteté, par exemple. Alors, ça s'acquiert. C'est quoi le plus grand bonheur sur terre? Pour un chrétien, là. C'est Jésus. Et qu'est-ce qu'a fait Jésus? Paul, il cite David. Oh, ça ne marche pas. OK. De même, David proclame le bonheur de l'homme au compte de qui Dieu met la justice sans œuvre. Heureux ceux dont les péchés. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas. Y a-t-il des personnes heureuses ici?
Oui.
Tu as des problèmes financiers? C'est rien à comparer au bonheur que tu as parce que tes péchés sont pardonnés. C'est rien. Le gars qui est poche pleine aujourd'hui, là, il est bien plus malheureux que toi. Juste de savoir que mes péchés sont pardonnés, c'est immense. C'est immense. En pratique, un exercice cette semaine. Comment on peut expérimenter cette joie extraordinaire que nous avons en Jésus-Christ et qu'on n'expérimente pas nécessairement. Même si on l'a, on ne l'expérimente pas, mais elle est toujours, toujours, toujours à notre disposition. Levez-vous, soyez joyeux, exercez cet impératif-là de Dieu dans n'importe quelle situation. La joie est là. Et un texte extraordinaire. Extraordinaire, un texte qui nous dépasse complètement. Hein? Ça commence dans Pierre, là. Il dit que béni, ceux qui sont régénérés, ceux qui sont nés de nouveau, parce qu'on a une espérance vivante, parce qu'on a un héritage qui est réservé dans les cieux, parce que nous sommes gardés par la puissance de Dieu, par la foi, régénérés pour le salut pour être révélé dans les derniers temps. Alors, fixons nos yeux, tournons nos yeux vers cette chose-là, et il termine en disant, tressaillir d'allégresse de savoir que nos péchés sont pardonnés, de savoir que nous sommes sauvés. Tressaillons d'allégresse, mes frères et sœurs, ce matin. Juste à penser, là, oubliant tout le reste, là, juste penser que nos péchés sont pardonnés, qu'au lieu d'aller en enfer pour l'éternité, on s'en va dans la présence de Dieu, dans le bonheur de Dieu. Alors, ça se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Sans le voir encore, vous croyez en lui. Pierre, il l'a vu, Jésus, lui. Pierre, il a entendu Jésus, il a vécu avec Jésus pendant quelques années, 3 ans au moins. Hein? Mais il dit à ses auditeurs, il dit, ou à ses lecteurs, il dit, c'est extraordinaire, parce que vous croyez en lui et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Il n'en revient pas que eux qui n'ont pas connu Jésus, qui s'est assis à côté d'eux, qui aient cette relation intime, cet amour-là pour Jésus, et qui sont capables de faire confiance. Alors, je pense, on va voir la prochaine fois qu'on n'a pas fini, on a juste effleuré le sujet. Hein? Je sais qu'il y a bien des questions, peut-être, mais on verra ça la prochaine fois. La joie, c'est un acte de foi. La joie d'un acte de foi. C'est le fruit de l'esprit. Un fruit, ça prend du temps. Hein? Alors, on va prier. Je vais prier. Et joignez-vous à moi dans la prière, si ça vous convient. Cette prière de foi-là. OK, Seigneur Jésus, Papa, aujourd'hui, je te fais confiance. Seigneur, je te fais confiance. Peu importe ce que je vis en ce moment, Seigneur, je choisis de te faire confiance. Je ne suis pas de bonne humeur, puis j'ai toutes les raisons du monde de ne pas l'être. J'ai de la peine, je suis en colère, je suis fatigué, j'ai peur, nomme-les. Les circonstances sont terribles, c'est pénible, Seigneur, c'est plus vivable. Je ne suis plus capable de vivre, Seigneur, dans cette situation-là. Seigneur, les relations avec les autres personnes sont affreuses. C'est brisé, ça fait mal, ça déchire. Tu te reconnais là-dedans? T'es en pleine tempête, là. T'es au milieu de la tempête. Un ouragan qui déverse, qui détruit tout sur son passage dans ta vie. Hein? Seigneur, ce matin, je tourne mes regards vers toi et je te fais confiance. Seigneur, je te fais vraiment confiance. Que tout ça, c'est sous ton contrôle. Que tout ça, ça a un sens. Que tout ça, Seigneur Dieu, ça fait partie du bonheur que tu as pour moi, qui s'en vient bientôt. Je ne le ressens pas pour le moment, à cause des circonstances, à cause de ce que je vis. Mais Seigneur, je choisis de te faire confiance. Et je reçois maintenant, Seigneur, ta joie. Lorsque je tourne mes regards vers toi, je suis rayonnant de joie. Seigneur, je chasse toutes ces raisons que j'ai de ne pas être dans la joie ce matin et je reçois cette joie qui est surhumaine, cette joie qui vient de toi. je la reçois maintenant et je veux l'expérimenter avec mes frères et sœurs. Je veux chanter avec mes frères et sœurs. Je suis dans la joie. On va le chanter.